dans cette nouvelle émission de notre série consacrée à la thématique de l'espérance dans la Bible et à travers les prophéties que nous découvrons dans le livre de l'Apocalypse. Nous sommes en compagnie de notre intervenant habituel, Philippe Délé, bonjour.
Bonjour Gaël.
Et avec vous, eh bien, lors de notre dernière émission, nous sommes restés sur le chapitre 12 d'Apocalypse au verset 17. Il était question d'un reste qui garde les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Vous nous aviez dit que ce reste correspond à tous les chrétiens, de quelque dénomination religieuse qu'ils soient, mais pour faire partie du reste, ces chrétiens doivent remplir les conditions suivantes. Qu'ils aient une relation personnelle avec Dieu, qu'ils aient accepté par le sang de Christ sa grâce ainsi que le salut en Christ, et tout cela a donc pour conséquence le respect de tous les commandements de Dieu ainsi que les principes bibliques. Cet ensemble de chrétiens s'appelle alors l'Ecclésia, c'est-à-dire l'Église ou la postérité de la femme, comme le dit Apocalypse, ou encore le peuple de Dieu. Selon la Bible, ce reste est donc poursuivi par le dragon, le diable, en colère, et qui va lui faire la guerre. Alors pouvons-nous aujourd'hui intégrer ce texte dans notre 21e siècle, Philippe ?
Oui, tout à fait. Et pour cela, nous allons continuer la lecture du livre de l'Apocalypse, qui d'ailleurs n'est pas seulement le dévoilement de Jésus, mais aussi le dévoilement de nos caractères et également le dévoilement de tous les événements qui précéderont son retour, c'est-à-dire des événements politiques, sociaux, climatiques, etc. Mais pour commencer, lisons le début du chapitre 13 du livre de l'Apocalypse à partir du verset 1. « Puis je vis une bête sortir de la mer, elle avait 10 cornes et 7 têtes. Elle portait une couronne sur chacune de ses cornes et des noms insultants pour Dieu qui étaient inscrits sur ses têtes. » La bête que je vis ressemblait à un léopard, ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa gueule comme celle d'un lion. Le dragon lui confia sa puissance, son trône et une grande autorité. L'une des têtes de la bête semblait blessée à mort, mais la blessure mortelle fut guérie, la terre entière fut remplie d'admiration et suivit la bête. Et lors des émissions 52 et 53, en fait, nous avons déjà expliqué une partie de ces 3 versets.
Oui, nous avions expliqué historiquement le retour de la papauté lors de la guérison de l'une de ses têtes. Mais que signifient ces 7 têtes ?
Tout d'abord, nous pouvons établir une comparaison, une similitude entre cette bête d'Apocalypse 13 et le dragon du chapitre 12. Le dragon possède 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. La bête possède 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes. Et tout d'abord, nous avons identifié le dragon qui est Satan. Et la bête qui sort de la mer ressemble au dragon et affiche le même caractère que celui-ci. C'est-à-dire qu'elle affiche le caractère de Satan.
Et les têtes de cette bête ont-elles un sens précis ?
Bien sûr, la Bible ne donne pas de détails sans explication. Les 7 têtes représentent les 7 instruments que le dragon a utilisés durant l'histoire et utilise encore aujourd'hui et utilisera jusqu'au retour de Jésus. Les têtes représentent les différents pouvoirs au service du dragon. Je m'explique. Rappelez-vous les bêtes du chapitre 7 du livre de Daniel.
Oui, ces bêtes qui correspondaient aux différents royaumes qui ont succédé à Babylone.
Effectivement. Nous l'avions développé lors des émissions 21 à 23. Ces bêtes représentaient 4 royaumes terrestres. Il y a eu Babylone, les Mèdes et les Perses, les Grecs. Et ensuite, la bête aux dents de fer qui correspond à la Rome païenne. Daniel ne cite que 4 royaumes. Ensuite, à la fin de sa vision, il voit le retour du Fils de l'homme, c'est-à-dire Christ et l'établissement du royaume de Dieu. Voyez-vous, un prophète n'a jamais l'intégralité d'une prophétie de temps. Mais Dieu donne des morceaux à plusieurs prophètes comme des éléments de puzzle. De cette manière, nous qui vivons les derniers instants de cette planète, par les Écritures, nous pouvons constituer l'image totale du plan de Dieu pour l'humanité. Ceci pour dire que le livre de l'Apocalypse est ici pour compléter le livre de Daniel. Daniel, dans sa vision, nous donne le déroulement de 4 royaumes, et ceux-ci sont des royaumes politiques et militaires qui correspondent à 4 têtes du dragon.
Et si je compte bien, il nous reste donc 3 têtes à identifier.
Oui, alors Gaël, suite à cette explication, d'après vous, quelle est la 5e tête ?
Eh bien, si on reprend la chronologie, comme le 4e royaume est la Rome païenne, je dirais que la 5e tête correspond à la Rome papale.
Tout à fait exact. Il s'agit bien de la Rome papale. Et nous voyons au chapitre 13 d'Apocalypse, au verset 3, il est dit « L'une des têtes de la bête semblait blessée à mort ». Et Gaël, à quelle période historique se situe cette blessure mortelle ?
Alors si je me rappelle bien les précédentes émissions que nous avons faites, il s'agit de 1798 et c'était sous le règne de Napoléon.
Tout à fait juste. Donc il nous reste 2 têtes à identifier, mais nous reviendrons peut-être plus tard sur ces 2 têtes. Je vous rappelle que toutes ces têtes représentent des pouvoirs qui ont possédé ou qui possèdent le caractère du dragon ou de Satan, car elles sont ses instruments. D'ailleurs, dans Apocalypse 13, dans la première partie du verset 2, la bête décrite fait clairement référence aux bêtes du livre de Daniel chapitre 7. Et relisons cette première partie. « La bête que je vis ressemblait à un léopard, ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa gueule comme celle d'un lion. » Et nous avions détaillé les caractères de ses pouvoirs. Les siècles se sont écoulés et historiquement nous nous trouvons à la fin du règne de ces quatre bêtes. Le léopard qui correspond au léopard de Daniel, la Grèce, l'ours qui correspond à l'ours de Daniel, les Mèdes et les Perses, le lion qui correspond au lion de Daniel, Babylone et l'Empire romain ou la Rome païenne, qui elle était représentée dans le livre de Daniel par une bête aux dents de fer. Et ces quatre bêtes représentent les quatre premières têtes de cette bête qui sort de la mer.
Cependant, il y a la deuxième partie du verset que nous n'avons pas encore développée. Pouvons-nous en donner l'explication ?
Oui, Gaël. Relisons cette partie du verset 2 qui est importante et nous obtiendrons certainement plus de détails. Le dragon lui confia sa puissance, son trône et une grande autorité. Lorsque l'Empire romain se christianise, l'histoire nous a démontré que les évêques de Rome ont occupé la place de Constantin lorsque celui-ci, en l'an 330, s'est retiré à Constantinople, laissant ainsi vacant le trône de Rome. Et cet événement correspond à la naissance de la cinquième tête de la bête, la Rome païenne qui devient la Rome politico-religieuse, c'est-à-dire la Rome papale. L'an 330 est l'année où l'une des conditions est remplie. Il s'agit du trône. Et voilà un tiers du verset 2 du chapitre 13 qui est réalisé.
Donc il lui reste à obtenir la puissance et une grande autorité ?
Oui, effectivement, cette bête doit encore recevoir ces deux critères pour remplir toutes les conditions afin d'exercer un pouvoir total. L'histoire nous apporte la réponse quant à sa puissance. Ses évêques ne possédaient pas d'armée proprement dite, alors il fallait que quelqu'un lui vienne en aide. Cela s'est réalisé en 496 lorsque Clovis, roi des Francs, s'est converti au christianisme et par conséquent il met son épée au service de la papauté. Et il fut le premier roi des Francs à se convertir au christianisme, en fait à l'Église catholique romaine. Écoutez ce que nous dit le site Wikipédia. En juillet 511, Clovis réunit un concile des Gaules à Orléans qui prend fin le dimanche 10 juillet. Le concile rassemble 32 évêques et est présidé par l'évêque métropolitain Cyprien de Bordeaux. La moitié viennent du royaume des Francs. Les évêques métropolitains de Rouen et Tours sont présents, mais pas celui de Reims. Les évêques de Vasconie, qui est un royaume à cheval sur les Pyrénées et l'Asturie jusqu'à l'Aquitaine, sont absents à cause de troubles dans leur région, mais également ceux de Belgique et de Germanie, du fait de manque de pénétration de l'Église catholique romaine dans ces régions. Clovis est désigné Rex Gloriosissimus, fils de la Sainte Église catholique, par tous les évêques présents. Et voilà la deuxième condition remplie. Les évêques ont par les pouvoirs séculiers obtenu la puissance politique et militaire, mais pour l'instant, ces évêques ne peuvent pas exercer toute leur influence, car Rome est assiégée.
Ce qui empêche du coup les évêques de régner.
Tout à fait, on peut le dire de cette façon. L'Italie de cette époque était encore occupée par les tribus barbares, les Goths. Et ces tribus se battaient entre elles. Un conflit qui opposa les Byzantins et les Ostrogoths entre les années 535 et 553. Et lisons à nouveau ce que nous dit le site Wikipédia à ce sujet. Le siège de Rome de 537 à 538 est un siège ayant duré 1 an et 10 jours, du 2 mars 537 au 12 mars 538. La guerre des Goths de 535 à 553. Le siège est le lieu de confrontation entre les forces de l'Empire byzantin défendant la ville et dirigé par Bélissaire et les Ostrogoths dirigés par Vitiges. Il eut un impact décisif sur le cours de la guerre et vit la victoire des Byzantins qui parviennent à repousser les Ostrogoths. En fait, en 538, Rome est libérée par la victoire de Bélissaire. De cette façon, la troisième condition était remplie. Rome recevait sa grande autorité. Et en plus, cet événement conclut la prophétie de Daniel, chapitre 7, verset 24, que nous avions détaillé dans l'émission 25. Et de cette façon, les évêques de Rome, qui ont obtenu cette grande autorité, ont pu commencer à exercer leur pouvoir à travers l'Europe, et ceci jusqu'en 1798, où elle reçut sa blessure mortelle. L'histoire, avec un H majuscule, atteste cette date qui est le départ de la prophétie de Daniel, chapitre 7, 25, d'un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et celle-ci est complétée par celle de l'Apocalypse, au chapitre 12, verset 6, celle des 1260 jours.
Alors malheureusement, là Philippe, nous arrivons au terme de notre émission, mais ce sera avec plaisir que nous découvrirons la suite de ces textes prophétiques. Une conclusion pour terminer ici ?
Oui, nous allons laisser cette conclusion à la Bible. Et je vous invite à écouter ce que nous dit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains, au chapitre 8, verset 38. Un message d'espoir. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.
Eh bien, merci Philippe, à très bientôt.
Merci Gaël, à bientôt, au revoir.